Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Blaise Shindani Kambala à la présentation.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Cannes Maroc 2025, les léopards de la RDC croisent tout à l'heure à 20h heure de Kinshasa, les zèbres du Botswana. Au même moment, les guépards du Bénin seront opposés aux lions de la Teranga du Sénégal. Quels sont les enjeux de ces deux matchs? La réponse dans un instant. 10 personnes dont 2 policiers accusés de corruption ont été transférées à Kinshasa après le chavirement meurtrier d'une baleinière sur le fleuve Congo dans la province de l'Équateur. Le drame survenu le samedi 20 décembre 2025 près de Mbandaka a fait des dizaines de morts. L'invité de ce journal est Dieudonné Nkishikazadi. Il est président national du Parti Congo Positif et initiateur du Front Anti-Dialogue. Dieudonné Nkishi estime que le recours à un dialogue national constituerait une forme de capitulation. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Cannes Maroc 2025, la troisième et dernière journée de la phase de groupe, se poursuit ce mardi 30 décembre 2025 avec les rencontres des groupes C et D. Dans le groupe D, les léopards de la RDC affrontent les zèbres du Botswana à 20h. Heure de Kinshasa. Au même moment, les guépards du Bénin seront opposés aux lions de la Teranga du Sénégal. Quels sont les enjeux de ces deux matchs? Vanessa Kongolo en Kongolo.
Rassuré d'être qualifié pour la phase à élimination directe, la RDC affronte le Botswana au stade El Barid de Deraba avec un état d'esprit des conquérants. L'enjeu de ce match contre les zèbres reste la quête de la première place du groupe D pour les léopards de la RDC qui sont jusque-là deuxième du groupe avec 4 points goal différence plus 1 derrière les lions de la Teranga du Sénégal, leader avec le même nombre de points à la différence de goal à virage plus 3. Les anciens écureuils est devenu Guépard du Bénin, troisième du groupe avec 3 points, qui sont à la quête de leur première sortie du groupe à une canne, vont tenter de tenir tête au lion du Sénégal au grand stade de Tanger. Les deux matchs vont se jouer simultanément à 20h, heure de Kinshasa.
Cannes Maroc 2025 toujours, les léopards de la RDC affrontent les zèbres du Botswana ce soir à 20h, heure de Kinshasa pour la troisième et dernière journée du groupe D. Avec 4 points et une deuxième place derrière le Sénégal, les Congolais visent une victoire large afin de terminer en tête du groupe, a déclaré le sélectionneur Sébastien Des Sabres en conférence de presse d'avant-match. De son côté, Joris Kayembe, le latéral gauche des Léopards, assure que les joueurs sont pleinement conscients de leurs responsabilités. On les écoute dans cet extrait choisi par Vanessa Kongolo Wang Kongolo.
C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. Il y aura une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. On va devoir s'imposer. Déjà la première étape, c'est gagner. Ça va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux, donc pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif, on n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres.
On doit entamer le match comme chaque match. C'est vrai qu'en Afrique maintenant, il n'y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes. On peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit pour les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'importance de ce match-ci, de faire un bon résultat, de pouvoir marquer le plus de buts possible.
À la même heure, les guépards du Bénin seront opposés aux lions de la Teranga du Sénégal. Plus tôt à 17h pour le compte du groupe C, la Tanzanie affrontera la Tunisie, tandis que l'Ouganda sera face au Nigeria. Je le disais en titre, 10 personnes dont 2 policiers accusés de corruption ont été transférées à Kinshasa après le chavirement meurtrier d'une baleinière sur le fleuve Congo dans la province de l'Équateur. Le drame survenu le samedi 20 décembre 2025 près de Mbandaka a fait des dizaines de morts. Dans un communiqué conjoint publié ce lundi à Kinshasa, les ministères des Transports et de la Défense nationale dénoncent des graves violations des règles de navigation. Le reportage de Grace Hamzati, rendu par Ronéline Tibonera.
Selon le communiqué, 10 personnes interpellées dans le cadre de l'enquête ont été transférées à Kinshasa dimanche 28 décembre 2025 après leur audition. Il s'agit de 4 marins, 4 civils et 2 policiers dont un colonel soupçonné d'avoir accepté des pots de vin pour autoriser le départ de l'embarcation en violation des règles de navigation en vigueur depuis le 4 octobre 2024. Les premières investigations font état de plusieurs manquements graves, notamment une navigation de nuit pourtant interdite, l'absence des gilets de sauvetage pour les passagers, ainsi que les non-respects du tonnage autorisé entraînant une surcharge importante de la baleinière. Les autorités affirment leur détermination à faire respecter la réglementation et avertissent que toute infraction aux règles de navigation fera l'objet des sanctions sévères, qu'il s'agisse des responsables portuaires ou d'exploitants d'embarcations. Pour rappel, la baleinière HBMB Mbeya transportait environ 800 passagers, en plus d'une importante cargaison de marchandises. Le naufrage est survenu à Ekoundé, un marché de nuit de la commune de Wangata, peu après le départ du port de Lomata, en direction du territoire de Monkoto dans la province de la Choapa.
Pendant ce temps, la ville de Bunia en Ituri fait face chaque jour à d'importants embouteillages, une situation devenue un véritable calvaire pour les habitants, particulièrement en cette période des festivités de fin d'année. Parmi les causes évoquées figurent la croissance démographique, l'augmentation du nombre de véhicules, le non-respect du code de la route et la faiblesse de la régulation assurée par la police de circulation. De nombreux habitants appellent l'État à mettre fin à ce phénomène devenu récurrent. Isaac Raymond Yopé nous en dit plus.
La ville de Bunia dispose pourtant des nouvelles infrastructures routières avec plus de 70 km de routes asphaltées et des panneaux de signalisation installés à plusieurs carrefours. Des efforts qui, à principe, devraient rendre fluide la circulation. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Des conducteurs restent bloqués pendant 1 à 2 heures sur certains axes de la ville. Preuve de la gravité de la situation, une autorité sanitaire en route pour une réunion d'urgence a été contrainte d'abandonner son véhicule pour emprunter une moto à afin d'arriver à destination. Elle témoigne.
En tout cas, qu'il y ait la normalisation, comme on peut marcher, nous vivons le calvaire. Vous pouvez passer là même 2 heures de temps si vous ne savez pas bousculer.
Selon plusieurs observateurs, les causes de ces embouteillages sont multiples. Non-respect du code de la route par les usagers, absence de parking pour les stationnements des véhicules et insuffisance de la régulation par la police de circulation. De leur côté, les autorités policières réfutent ces accusations et affirment déployer des efforts pour réduire les embouteillages. Pour l'intendement, sous commissaire de la police à Bunia.
Notre présence est presque dans des endroits stratégiques et les autres unités de la police. Il y a aussi la CNPR qui nous accompagne.
Pour la population, l'État doit impérativement renforcer les mesures de prévention et de régulation afin de faciliter la circulation dans cette ville en pleine croissance. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis, la ville de Kananga dans la province du Kasaï central fait face à une recrudescence inquiétante des têtes d'érosion. Leur nombre est passé de 400 à plus de 800 selon les dernières données publiées par le ministère provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation. Les spécialistes de l'environnement attribuent cette aggravation à la construction anarchique et au déboisement incontrôlé. Reportage d'André Katindengala Mouloumé.
À Kananga, le phénomène des têtes d'érosion prend une ampleur alarmante. À chaque pluie, des nouvelles ravines se forment, menaçant quartiers, avenues et infrastructures. Presque aucune zone de la ville n'est épargnée. Les conséquences sont considérables. Pertes en vies humaines, routes fortement endommagées, habitations englouties, ainsi que des écoles et des églises détruites. Selon David Mwanda, expert en environnement à Kananga, cette situation découle principalement de la construction anarchique, de la mauvaise gestion des déchets et du déboisement intensif.
Lorsqu'on a créé de nouveaux quartiers, on n'a pas très bien Nerijia n'a pas respecté le plan urbanistique. Lorsqu'on coupe les arbres, l'eau maintenant commence à faire des impacts sur le sol. Il y a des déchets toxiques. Lorsqu'on les jette sur la terre est complètement polluée. Et là, quand il y a le ruissellement, c'est fini.
David Mwanda recommande un strict respect des normes urbanistiques, une meilleure gestion des déchets et des actions de reboisement afin de freiner la progression des têtes d'érosion. Kananga, André Katindengalamouloumé, Radio Okapi.
Province du Lualaba, la commission du ministère national des mines de pêche ce lundi à Kolwezi appelle à l'apaisement après les tensions provoquées par l'arrêté du ministre des mines relatif à l'exploitation minière artisanale. Cette délégation a pour mission d'apporter des éclaircissements sur ces textes au cœur d'une vive controverse. D'autres détails avec Paulin Monanga.
Le chef de la commission du ministère national des mines rassure la population. Franck Fouamba précise que l'arrêté du ministre n'interdit pas aux creuseurs artisanaux d'exploiter les minerais et il ne suspend pas les coopératives minières. Mais la mesure concerne uniquement certaines entités de traitement qui sont non conformes. Il réaffirme la volonté du gouvernement central de réformer les secteurs conformément au code minier. Franck Fouamba.
Le travail qui est fait avec les entités auxquelles le gouvernement et l'État congolais reprochent des choses. Après plusieurs mises en garde et plusieurs moratoires donnés auxquels elles n'ont pas répondu, ça ne concerne pas nos frères et nos sœurs qui sont dans l'artisanat. L'artisanat n'a pas été interdit, les coopératives n'ont pas été arrêtées, l'artisanat n'a pas été arrêté. Que ça soit clair, l'arrêté ne le dit pas. Tout le monde retient que la mesure qui a été prise, c'est pour le bien de l'artisanat minier, c'est pour le bien de nos frères et nos sœurs.
La commission devrait rencontrer à partir de ce mardi différentes parties du secteur minier à Kolwezi, signalant que la tension reste vive dans la ville de Kolwezi et ses environs après la publication de l'arrêté du ministre des Mines portant suspension des activités minières et des commercialisations de toutes les entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cuprocobaltifère. Lubumbashi, Paulin Monanga, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, au total, 846 réfugiés congolais hébergés dans les camps de Rumonge au Burundi ont reçu une aide humanitaire composée de vivres et de non-vivres. Ces dons, offert par des particuliers, constitue une véritable bouée de sauvetage pour ces réfugiés majoritairement originaires de la ville d'Ouvira, selon les bénéficiaires. Le président des réfugiés congolais du camp de Rumonge a exprimé sa gratitude envers ces bienfaiteurs qui leur apportent un soutien essentiel. Mapenzi Manyeboa appelle également le gouvernement de la République démocratique du Congo à suivre cet exemple, estimant que les besoins des réfugiés congolais au Burundi restent immenses. On écoute Mapenzi Manyeboa au micro de Jean Kassami.
C'est depuis deux semaines que nous sommes ici à Rumonge, en quittant le territoire d'Ovira, dans la ville d'Ovira, et les autres ont quitté dans le territoire de Fizi et dans la ville de Baraka. Ici à Rumonge, on commence déjà à trouver quelques assistances des associations locales de Rumonge, mais aussi nous trouvons aussi l'assistance de quelques députés nationaux, notamment l'honorable Justin Bitakwira, qui était ici le jeudi. Il nous a donné 140 sacs de farine de maïs. Il nous a donné aussi 1740 kilos de haricots, 10 bidons d'huile de palme, 100 bâches. On a eu aussi des savons. Nous avons enregistré 846 ménages. Et nous disons merci aux leaders qui continuent à penser à nos difficultés parce que nous vivons dans des conditions tellement difficiles ici à Rumonge.
La cité pétrolière et côtière de Mwanda dans le Congo central est plongée dans le noir. La persistance de coupures d'électricité a été au centre d'une réunion d'urgence du Conseil territorial de la jeunesse tenue ce lundi 29 décembre. Objectif, faire le point sur la poursuite des travaux d'électrification après la dissolution de la commission chargée de gérer les fonds de Mwanda issus de l'avenant 9 sur l'exploitation pétrolière et gazière signée par le président de la République. Nana Plurich Mambou, reportage.
La cité de Mwanda passe souvent les fêtes de fin d'année sans électricité. La population a du mal à conserver les vivres frais. Cette situation rend morose l'ambiance des fêtes. Mathieu Kumbu, l'un des jeunes de la cité de Mwanda, témoigne.
Le manque de courant à Mwanda occasionne beaucoup de manques à gagner. Vous allez vous rendre compte qu'à Mwanda, ici, il y a peu de chambres froides qui ont accès à l'énergie. Et tout ça, ça crée un problème pour la conservation des vivres frais. Également aussi pour des bars et ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à offrir des boissons fraîches à la communauté. Ensuite, ils doivent recourir à des glaces. Quand vous séclez à Mwanda, les grandes artères ne sont pas éclairées.
Ainsi, à l'issue de la réunion tenue ce lundi par le Conseil territorial de la jeunesse de Mwanda, il a été décidé de faire une descente au cabinet du ministre national des hydrocarbures à Kinshasa afin de statuer sur les mesures d'accompagnement post-dissolution de la commission de gestion des fonds de Mwanda, ici de l'avenant nef sur l'exploitation pétrolière et gazière à Mwanda, signé par les chefs de l'État après les soupçons de détournement et la mésgestion de ces fonds. L'idée derrière cette descente à Kinshasa est de savoir comment impliquer la jeunesse dans la poursuite des travaux d'électrification de la cité de Mwanda. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Rendons-nous au Sankuru où le directeur de la province éducationnelle Sankuru 1, Grégory Boloma, a été mis à la disposition du secrétaire général de l'éducation nationale à Kinshasa. Cette décision fait suite à une résolution adoptée vendredi dernier par l'Assemblée provinciale du Sankuru qui lui reproche la non-exécution d'un édit prévoyant l'ajout d'environ 6 000 francs congolais aux frais de participation des élèves finalistes à la session ordinaire de l'examen d'État 2025. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans une lettre adressée au secrétariat général, le gouverneur ad intérim du Sankuru, Martin Izipia, a confirmé la mise à disposition du directeur de la province éducationnelle du Sankuru 1. Concrètement, Grégory Boloma ne peut plus exercer ses fonctions au sein de la province. Selon l'Assemblée provinciale, les directeurs de la province éducationnelle du Sankuru 1 auraient refusé de répondre à une invitation officielle visant à obtenir des explications sur la non-application de l'édit relatif à l'ajout des frais. Des sources proches du dossier indiquent toutefois que l'arrêté du gouverneur fixant les frais de participation à l'examen d'État avait été déjà publié, ce qui ne laissait aucune marge au directeur de la province éducationnelle du Sankuru 1 pour intégrer les montants supplémentaires exigés par l'Assemblée provinciale. Cette contradiction entre l'édit provincial et l'arrêté du gouverneur semble être au cœur du blocage. Dans l'attente de la décision du ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, le chef de division de l'orientation scolaire du Sankuru 1 a été désigné pour assurer l'intérim. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, les rassemblements des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP conforte sa majorité absolue aux élections législatives de samedi 27 décembre. Le parti du président Alassane Ouattara, réélu il y a deux mois avec 90% de voix, rafle près de 77% des sièges selon les résultats provisoires proclamés à l'instant par la commission électorale indépendante. Au Ghana, la seule et unique raffinerie publique de pétrole a enfin redémarré ses activités. Créée dans les années 1960 et passée sous le contrôle de l'État en 1977, la raffinerie de Tema avait cessé de produire du carburant depuis 2021, faute de financements adéquats. Son retour aux affaires marque donc une avancée pour l'indépendance énergétique du pays, le produit pétrolier représentant l'année dernière plus d'un quart des importations ghanéennes.
L'invité.
Notre invité est Dieudonné Nkichikazadi, le président national du Parti Congo Positif et initiateur du Front Anti-Dialogue, estime que le recours à un dialogue national constituerait une forme de capitulation. Il réagit ainsi aux nombreux appels en faveur de la tenue d'un dialogue national pour tenter de résoudre durablement la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Selon lui, les dialogues politiques précédents n'ont conduit qu'à des arrangements de partage du pouvoir et ont favoriser l'impunité sans apporter des résultats concrets pour le bien-être du peuple congolais. Dieudonné Nkichi s'entretient avec Jean-Marc Matoakimofelele.
Monsieur Dieudonné Nkichikazadi, bonjour.
Bonjour Jean-Marc Matoaki, bonjour à tous les auditeurs qui me suivent à travers le monde sur Radio Okapi, la radio de la paix.
Plusieurs voix des leaders politiques congolais, dont Martin Fayoulou et Moïse Katumbi et bien d'autres encore, et leur plateforme politique propose les dialogues inclusifs comme la seule alternative pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous?
Bon, vous savez, notre pays a un problème aujourd'hui avec les acteurs politiques. Quand vous regardez la situation telle qu'elle se passe, un problème où le pays est agressé et l'agresseur ne se cache pas. L'agresseur ne dit pas non. L'agresseur vous dit, j'ai Bukavu entre mes mains. J'ai Goma entre mes mains. J'ai Uvira. Il cite les villes et il vous les dit clairement. Il se cache pas. Il signe les accords. Il ne le respecte pas. L'agresseur tue sur votre territoire. Mais vous avez des leaders politiques congolais qui ont encore ce courage de dire que ce qu'on doit faire, c'est de dialoguer. Mais la question, c'est de savoir, nous allons dialoguer avec qui? Depuis quand vous allez dialoguer avec quelqu'un qui est en train de tuer sur votre territoire, de violer vos femmes, de violer vos enfants, de tuer comme on tue? Imaginez si la situation était inverse, si c'était le Congo qui agressait le Rwanda. Pensez-vous qu'il y aurait eu un seul leader politique rwandais qui demanderait qu'on dialogue avec des Congolais? Donc, le problème, c'est celui-là. Comment vous allez dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas dans la logique des dialogues?
Votre plateforme politique a lancé un front anti-dialogue. Pourquoi vous vous opposez catégoriquement au dialogue, M. Nkeshi?
Nous nous opposons au dialogue à cause de plusieurs raisons. D'abord, pour la dignité de nos peuples congolais. Parce que, aujourd'hui, les problèmes de notre pays, tels que ça se présente, que ça soit au niveau des Nations Unies, au niveau des États européens, au niveau des États-Unis, de tous les pays du monde, tout le monde condamne le Rwanda, tout le monde condamne l'agression rwandaise sur le territoire congolais. Mais il n'est resté que les acteurs politiques que vous voyez là pour penser que la crise qui est là est une crise interne. Non, le problème que nous avons, c'est d'abord un problème du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dialoguer aujourd'hui, c'est danser à la musique du Rwanda. Le Rwanda, qui sait que il peut organiser une rébellion, entre guillemets, une rébellion de façade, une rébellion par procuration, et il sait très bien qu'à la fin, ça va se terminer par un dialogue. Et lorsque vous tenez des dialogues, c'est pourquoi? Le dialogue qu'il réclame, c'est pour deux, trois fonctions. Première fonction, l'impunité. Les dialogues n'ont fait que consacrer l'impunité. Et nous disons, non, ça ne doit pas continuer comme ça. Deuxième raison, c'est que nous disons, tant que les dialogues se termineront par l'impunité, se termineront par les brassages, les mixages, les ceci, les cela. Ça veut dire que n'importe quel quidam au Congo peut s'allier avec un État étranger, commencer sa rébellion, parce qu'il sait que ça va se terminer, il y aura des relais au Congo qui vont réclamer des dialogues et ça va se terminer par des dialogues. Nous disons non, ça ne peut pas. Ce n'est pas une bonne leçon que nous sommes en train de transmettre aux générations à venir.
Et en retour, quelles sont les pistes des solutions que M. Nkeshi Kazadi préconise en évitant la voie du dialogue inclusif?
La piste des solutions, un, c'est d'abord de sortir du déni de la guerre. Nous devons comprendre que on nous fait la guerre. Et que cette guerre, on ne la fait pas à un régime, comme on prétend les dire, comme les relais du Rwanda prétendent les dire, non. Cette guerre, on l'a fait au peuple congolais. Et les peuples congolais de bonne qualité ont commencé à les comprendre. Cette guerre, on l'a fait au peuple congolais. Regardez, lorsque Mzee Laurent Désiré Kabila vient avec les Rwandais, on nous dit c'était pour chasser les dictateurs Mobutu. Effectivement, tout le monde, nous étions fatigués du dictateur. Et lorsqu'on a fini de chasser les dictateurs, docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba dit à Mzee de leur demander la facture, qu'on paye la facture et qu'ils rentrent chez eux. Depuis lors, est-ce qu'ils sont rentrés? Ils ne sont plus jamais rentrés. Ils sont plus jamais rentrés. Et donc, voilà, Mobutu parti, s'est installé Mzee Laurent Désiré Kabila, lui-même qui est venu avec lui, quel a été son sort? Donc, vous comprenez que le problème, ce n'était pas le président Mobutu, ce n'était pas Mzee Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, on est en train de faire la guerre sous les régimes du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et alors, le peuple à qui on fait la guerre doit sortir du déni de la guerre. Deuxième solution pour nous, c'est l'autodéfense. En tout cas, la seule solution, ce n'est pas de dialoguer. La seule solution, c'est l'autodéfense populaire.
Dieudonné Nkeshi Kazadi, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était notre invité Dieudonné Nkeshi Kazadi. Il s'entretenait avec Jeannot Matouakimofelele. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée, coordonné par Élisée Tshikota Tshivueta, supervisé par Alain Hiron Mochinge et mise en onde par Jean-Claude Nsalamwanama Kengon Swalou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.